les jardinières.
On se réveille au jardin comme chaque samedi matin. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Léo.
Bonjour Noélie.
Nous sommes en compagnie de Timothée Grisel aujourd'hui. Bonjour Timothée.
Bonjour, bonjour à tous.
Timothée Grisel, vous êtes paysagiste aux Verrières et propriétaire de Timothée Grisel Paysage. Merci d'être avec nous ce matin.
Avec grand plaisir.
Installez-vous confortablement, on est donc parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
C'est déjà le dernier week-end du mois d'octobre, l'automne est bien en place. Timothée, on va parler d'une très jolie fleur dans quelques minutes, mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire au potager ces prochains jours en extérieur ?
Bon, si la météo le permet, alors vous pouvez sans autre encore semer vos épinards et pourpiers. Et puis après, je trouve que c'est avantageux de couvrir son potager pour l'hiver avec idéalement du fumier ou des feuilles mortes ou un peu de compost. Vous pouvez aussi planter vos bulbes d'ail et vos bulbes de manière générale. Et puis en altitude, moi je préconise aussi d'attacher ces résines et groseilles et consorts pour leur éviter de se casser pour la neige.
Merci Timothée. Vous restez donc avec nous jusqu'à 8h pour répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. Des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20. Par SMS aussi, c'est possible. Vous tapez jardin, espace, suivi de votre question et de votre nom. Et vous nous l'envoyez au 939. Ou alors, une autre possibilité, c'est par formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo à votre question.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, on parle d'Alia avec Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières. Avant d'apprendre à en prendre soin de cette plante, dites-nous Timothée, c'est quoi au juste un dahlia et d'où vient-il ?
Alors, un dahlia, c'est une fleur spectaculaire qu'on voit facilement dans les jardins, qui est assez grande, assez rigide, un feuillage vert luisant généreux, et puis aux fleurs multicolores, sauf le bleu majorel. Et puis c'est une plante qui vient du Mexique, principalement des régions chaudes d'Amérique latine, ça peut aller jusqu'en Colombie. Il est souvent en pompon, et puis il a été introduit assez tardivement en Europe, seulement à partir des années 1800. Et figurez-vous qu'au départ, il était plutôt cultivé comme substitut aux pommes de terre. Donc le dahlia se mange, autant la fleur, la feuille que le tubercule. Mais bon, c'est pas très ragoûtant. Et puis... Après, c'est en 1806 qu'est arrivé le premier cultivar. Et puis aujourd'hui, il y en a plus de 40 000. Donc c'est comme les tulipes, quoi. C'est assez fou comme ça s'est diversifié.
On continue notre entretien des dahlias parce qu'il faut faire en ce moment les arracher. Timothée, pourquoi est-ce qu'on doit les arracher en automne ?
Tout simplement parce que c'est une plante qui vient des régions tropicales et qu'elle ne supporte pas le gel.
Timothée, comment s'y prendre pour les arracher proprement sans abîmer les tubercules ?
Alors, le mieux, c'est de prendre une fourche beige, triandine ou beige, suivant la région d'où vous êtes, et de planter un peu plus large et d'aller de planter bien profond, de soulever la troche. Et puis, il faut que la terre soit humide, mais pas trop. Après, on ne fait pas toujours comme on veut. Ce qui est bien aussi, c'est d'attendre vraiment le dernier moment, une fois que la partie aérienne a gelé. C'est là qu'on a profité des dernières fleurs et puis ça n'a encore pas atteint la terre, donc c'est à ce moment-là que c'est le bon moment de les arracher.
Une fois les tubercules sortis de terre, justement, il faut les nettoyer, les couper, les séparer en certaines parties. Comment ça marche ?
Alors oui, déjà il faut supprimer la partie aérienne, donc on la coupe à peu près à 10 cm du départ des racines. Après, il faut un peu secouer la troche, mais ici c'est trop humide, on peut les laisser sécher quelques jours dans un local sec et puis après secouer un peu les mottes, mais c'est pas un prérequis indispensable. Je pense que c'est bien de pas trop abîmer les racines pour qu'elles passe le mieux l'hiver. Et puis c'est sûr, si vous avez des troches qui se séparent, alors là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est mieux de les garder en troches comme elles étaient dans la terre.
Vous conseillez de les étiqueter ou de noter quelque chose avant de les stocker pour ne peut-être pas mélanger les variétés ?
Absolument. Alors, les dahlias, c'est comme les bulbes de tulipes ou de jonquilles. Alors, je vous mets au défi de reconnaître la variété une fois que c'est des racines. Donc, moi, j'avais une bonne astuce assez sympa. C'est que j'achetais de la laine brute, en déjà tissée, en fil. Et puis, j'emballais mes troche avec l'étiquette. Et puis, en fait, au printemps, la laine, c'est un peu désagrégé et on peut facilement replanter sans que ça cause problème ou séparer ses daïas. Donc, je trouve que c'est une bonne astuce au moins de mettre les couleurs parce que des fois, après, on ne sait plus où quelle couleur on a et où est-ce qu'il faut les mettre pour que ça soit sympa dans nos massifs.
7h, 8h, les jardinières.
On parle des dahlias ce matin dans les jardinières. On a parlé de l'entretien de ces dahlias en automne. Maintenant, on arrive à l'hiver. C'est l'étape suivante, celle qu'on oublie un peu, l'hivernage. Timothée, comment bien conserver nos dahlias pendant l'hiver?
Alors, je dirais comme une patate, à l'obscurité et à la fraîcheur.
Timothée, où est-ce qu'il faut stocker ces tubercules? Un local frais, une cave? C'est quoi la température idéale?
Bon, alors le mieux, c'est en cave, bien sûr. Mais après, si vous n'avez pas de cave, un garage ou une pièce fraîche fera très bien l'affaire. Faites attention que ce ne soit pas trop chaud parce que ça pourrait remettre en végétation les dahlias. Et puis surtout, il y a des pucerons qui peuvent apparaître pendant la période hivernale. Donc le mieux, c'est vraiment un local frais. Et puis la température idéale, je dirais, c'est entre 5 et 15 degrés. Ça peut aller jusqu'à 17, mais après, ça devient limite. Mais c'est, je pense, l'obscurité et le frais, l'humidité aussi est importante. Il ne faut pas qu'il fasse trop sec parce que sinon, ils vont se dessécher et puis vous n'allez pas pouvoir les replanter au printemps.
Timothée, quel risque encourent nos dahlias pendant l'hivernage? Peut-être la pourriture, la déshydratation et puis surtout, comment éviter cela?
Alors effectivement, la pourriture, ça peut être le problème de l'hivernage. C'est bien de les poser collés serrés contre motte, mais pas les empiler. Donc, on peut les mettre en cageot si on n'a pas une grande cave. Après, bien sûr, le sec, ça, il faut faire attention que sa cave ne soit pas trop sèche, mais en principe, ce n'est pas le problème. Si au mois de mars, vous voyez que février-mars, vous voyez que vos bulbes sont un peu séchards, vous pouvez à peine les vaporiser, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, il faut les oublier. C'est comme ça qu'il passe le mieux l'hiver.
Timothée, une question qu'on a soulevée hors antenne. Il paraît qu'on peut les manger, ces dahlias, c'est vrai?
Oui, absolument. Ça, sauf erreur, le goût un peu de l'artichaut. Par contre, c'est très filandreux. J'ai déjà entendu des anecdotes de gens qui, leur jeune fille, avait mélangé les céleris aux dahlias et pendant tout l'hiver, ils ont mangé des dahlias au lieu des céleris. Donc, je n'ose pas imaginer le goût des plats, mais... Mais en fait, c'était surtout à une époque où il y avait les grandes famines en Europe et on cherchait des substituts aux pommes de terre qui avaient quand même des gros ravageurs. Et c'est de là que viennent ces recherches de tubercules qui se gardent en hiver. Donc oui, le dahlia a fait partie des plantes alternatives de subsistance comme la glycine tubéreuse, les topinambours. Enfin, il y en a eu plein dès qu'on mange encore aujourd'hui, mais il y en a des moins connus vu qu'on préfère les fleurs aujourd'hui.
Et c'est quelle partie, du coup, de la plante qu'on peut manger?
Alors, c'est vraiment le tubercule. Après, la feuille se mange, mais elle est un peu amère. Et puis, la fleur. Alors, si vous voulez épater vos convives dans vos salades estivales et automnales, alors, des pétales de dahlia, c'est super beau. Enfin, et puis, après, au goût, il y a mieux quand même. Mais en tout cas, vous n'allez pas mourir ou faire une indigestion si vous mangez des tubercules de dahlia.
Et quelle petite sauce vous conseillez pour accompagner peut-être les dahlias au repas?
Noélie, elle a faim ce matin.
Alors, là, j'aurais envie de dire en ragoût, comme ça, c'est mieux pour camoufler le filandreux. Mais après, je vous avoue que je n'ai jamais mangé de tubercule de dahlia, mais je sais que ça se fait.
Vous savez quoi faire tout à l'heure quand vous rentrez à la maison.
7h. 8h, les jardinières.
Nous sommes toujours en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières, et on continue notre cycle autour des dahlias.
On a parlé de l'arrachage et de l'hivernage. On entre maintenant dans la saison du renouveau, le printemps, et nos tubercules vont sortir de leur sommeil. Quand est-ce qu'on peut les replanter en pleine terre, Timothée, nos dahlias? Et est-ce qu'on doit attendre la fin des gelées?
Ah oui, alors c'est impératif d'attendre la fin des gelées, parce que comme on a dit, c'est une plante plutôt tropicale. Donc en pleine terre, en début mai, pour les régions de plaine, et puis pour les régions d'altitude, c'est mieux d'attendre fin mai. On peut accélérer le processus en les plantant en pot au mois d'avril. Donc voilà. Et puis après, j'avais aussi vu une fois dans le canton de Berne, ils avaient sorti les cagettes de Daya au soleil et puis ils attendaient qu'ils commencent de démarrer pour les planter. Donc c'est aussi une façon de hâter le processus.
Avant la plantation, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour les réveiller ?
Alors, je dirais qu'il faut surtout les diviser. Ça, c'est hyper important parce que si on laisse son Daya grossir, qu'on le replante tel quel, à force, il va devenir trop gros. J'en ai fait l'expérience, ça devient des plantes trop exubérantes avec moins de fleurs et puis on ne sait plus quoi, comment en faire façon dans son jardin. Donc, c'est important pour ceux qui deviennent gros, donc à peu près une bonne, on va dire qu'on arrive bien à la tenir en deux mains. Là, c'est bien de le partager en deux ou en trois. Il faut y aller dard-dard à la hache ou à la serpe. C'est le meilleur moyen. Ce qu'il faut faire très attention, c'est de garder des tiges de l'année précédente attachées au tubercule. C'est de là que vont repartir les bourgeons. Donc, si vous prenez juste un petit tubercule en mode d'une patate pour y revenir, ça ne va jamais repartir. Il faut vraiment qu'il y ait la tige sèche pour que ça reparte. Donc, voilà. Puis après, on peut aussi, on n'est pas obligé de prendre la hache, hein, certains se séparent naturellement entre eux. Donc là, c'est le mieux à faire avant de commencer sa culture de Daya.
On ne fait pas dans la dentelle avec les dahlias. Où est-ce qu'on peut les planter, Timothée ? Est-ce qu'ils aiment le plein soleil ou alors un sol drainé ?
Alors, ils aiment le soleil. Ils vont à mi-ombre, ils feront un peu moins de fleurs, un peu plus de feuilles, mais c'est vraiment une plante du soleil. Dans tout type de terre, toute bonne terre de jardin, j'ai envie de dire, par contre, ça n'aime pas les terres trop sèches. Là, c'est un peu ou trop pauvre. C'est un peu les limites du dahlia, j'ai envie de dire.
Les jardinières.
Tous les samedis matins, entre 7h et 8h, vous vous réveillez en compagnie des jardinières et de leur invité. Ce matin, nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières et propriétaire de Timothée Grisel Paysages. Nous parlons des dahlias, du bon moment pour les arracher à leur entretien en été. Timothée, vous avez encore quelques conseils à nous partager avant de répondre aux questions de nos auditeurs. Léo, comment on s'y prend pour poser des questions ?
Alors, c'est tout simple, hein. Vous pouvez nous appeler directement au 0901 70 20 20 et vous nous parlerez en direct avec Timothée. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez « jardin », un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Et avant de répondre à vos questions, on continue avec nos dahlias. On parlait tout à l'heure de l'endroit où on pouvait les planter. Maintenant, Timothée, comment on fait pour les planter concrètement, ces dahlias ? Quelle profondeur du trou ? Combien d'espace entre les plants vous conseillez ?
Bon, alors moi, j'aime bien les démarrer en pot parce que du coup, c'est plus facile de les replacer après dans nos massifs de vivaces, notamment. Après, si vous n'avez qu'un massif de dahlias, c'est tout à fait possible de les planter directement en terre. Il ne faut pas les planter trop profond. Il faut juste recouvrir de quelques centimètres de terre les tubercules. J'ai envie de dire où vous avez taillé vos dahlias, les tiges que vous avez taillées, elles doivent être à peine sous terre. Et puis, après, j'aime bien mettre à la base une collerette anti-limaces parce que les limaces sont très, très friandes de jeunes pousses de dahlia. Donc, ça permet de ne pas avoir de déconvenues quand ça pousse. Et puis après, pour les espacements, ça dépend vraiment des variétés. Il y a des petites variétés comme des variétés gigantesques. Donc, ça peut aller de 20 cm pour les petits à 50 cm pour les plus gros.
Le printemps est passé, les dahlias sont plantés. Parlons maintenant de l'été et de l'entretien des plantes en fleurs. Une fois les plants en place, quels sont les premiers soins à leur apporter ?
Alors, c'est vraiment une culture facile pour tout jardinier amateur qui a envie de se lancer. Il ne faut pas habituer les plantes à trop d'arrosage. Les plantes, elles doivent apprendre à faire leurs racines pour aller chercher l'eau. Donc, vous pouvez les arroser à la plantation, mais après, à part un gros coup de sec, ne les arrosez pas. Sinon, ils deviennent aussi trop gros et puis moins résistants. On sait que par la suite. Et puis après, c'est clair, un tuteurage ou enlever les fleurs fanées, enfin les entretiens classiques de plantes à fleurs sont de rigueur pour les dahlias.
On les entretient justement, ces dahlias, pour éviter certaines maladies et parasites. Dites-nous par exemple, quel genre de parasites pourrait-on trouver sur les dahlias ?
Alors justement, les dahlias sont vraiment très résistants, c'est vraiment une culture facile. Par contre, c'est vrai que la limace, au début, elle est très néfaste, donc c'est vraiment les jeunes pousses qui sont les plus vulnérables. Après, une fois que la plante elle a pris de la vigueur, c'est tout bon, on peut enlever notre collerette, enfin, où il n'y a plus de soins particuliers. Et puis après, bah, les régions où il y a des campagnols, ça peut être un facteur d'échec de ces dahlias.
Un petit point lexique maintenant. Alors, toutes ces dahlias, il y en a plein, j'imagine. Vous nous faites un petit tour de toutes ces espèces.
Bon, alors, il y a les pompons, bien sûr, qui sont en collerette. Enfin, on va dire comme un camélia un peu. Il y a les dahlias cactus. Il y a les fleurs simples qui ressemblent beaucoup aux... Comment on dit je vais y arriver. À la fleur originelle, merci. Et puis, après, bien sûr, il y a aussi la fleur de nénuphar. Il y en a vraiment tout plein. Puis, il y a les mini, les nains. Il y a ceux à feuillage noir. Il y a vraiment un pléthore de catégories qui toutes ont leur couleur de fleurs et leur forme de fleurs spécifiques. Et c'est ce qui les rend finalement aussi attachants et diversifiés et uniques dans notre jardin.
Et vous, Timothée, vous avez peut-être une espèce préférée de dahlia, un type ?
Alors moi, j'aime beaucoup ceux à fleurs de nénuphar parce que dans les décos florales, je trouve, par exemple, sur une table, dans une vasque d'eau avec des feuilles de capucine, on a l'impression d'avoir un mini étang. Donc voilà, j'ai une préférence pour le rose. Donc la variété Honesta est ma favorite.
Les jardinières.
Et on est ensemble encore jusqu'à 8 heures pour parler jardinage avec Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières. On a parlé du dahlia ce matin. Maintenant, en place à vos questions jardinage. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler maintenant, si vous le souhaitez, au 0 901 70 20 20 pour parler directement avec notre invité des questions qui nous sont parvenues, par exemple, par SMS, Léo.
Oui, on a reçu un message sur WhatsApp d'un certain Michael qui nous demande, voilà, j'ai une question, est-ce que je peux faire pousser des endives dans mon jardin ou pas ?
Alors oui, vous pouvez faire pousser des endives. Par contre, maintenant c'est trop tard. Donc c'est une culture qui se commence au printemps. C'est une chicorée en fait. Donc comme les chicorées, après il faut la cultiver tout l'été et puis l'arracher à l'automne pour la mettre en cave pour le forçage, pour avoir les fameuses endives qu'on peut acheter dans le commerce. Donc ça sera à commencer au printemps prochain.
Merci Timothée. On a encore une question qui nous vient de formulaire cette fois-ci de Milady de Colombier. Elle nous dit bien le bonjour, pourriez-vous éventuellement m'aider ? Je suis une fan d'orchidées et jusqu'à cet été, elles étaient une splendeur. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des taches blanches, ouateuses qui se formaient. Elle n'a pas tout de suite réagi. Elle a essayé de faire plusieurs choses. Elle a fait des recherches. Elle a vu qu'il s'agissait de cochenille farineuse. Hein. Mais malheureusement, elles sont toujours là. Ça ne marche pas, ces traitements. Elle doit tous les jours inspecter toutes ces orchidées. Hein. Elle dit qu'elle en a 23. Comment est-ce qu'elle peut les éliminer, ces petites bêtes ?
Alors, bon, la cochenille farineuse, enfin les cochenilles de manière générale, elles aiment beaucoup les lieux chauds et humides, donc avec une orchidée, c'est bingo. Donc, puis en plus, après, ça peut provoquer de la fumagine, donc le voile noir qu'il y a sur les feuilles qui peut vraiment impacter durablement les plantes. Donc, les cochenilles n'aiment pas l'eau, donc elles aiment l'humidité, mais pas l'eau, donc vous pouvez doucher vos orchidées, ça va déjà les limiter. Puis après, vous pouvez faire des pulvérisations au savon noir. C'est efficace, mais ça a répété, et puis il faut être vigilant après si elles réapparaissent. Les plantes, de manière générale, réagissent aux changements de température, donc les changements de saison. Donc là, c'est un peu l'explosion des ravageurs d'intérieur en ce moment.
On a encore une question qui nous vient de Valérie de Corgémont qui nous demande « J'ai besoin de votre aide, j'ai des bananiers qui étaient dehors cet été et comme très souvent chez moi, chaque fois que je rentre une plante, j'ai après un peu de temps plein de petites araignées oranges sur mes plantes et du coup elles dépérissent. Je ne sais pas si je dois les traiter avant de les rentrer et comment m'en débarrasser maintenant qu'elles ont envahi mes plantes ?»
Alors, je suppose que c'est donc effectivement des araignées rouges, donc c'est un ravageur qui aime la chaleur. Donc déjà, en préambule, je dirais de rentrer le plus tardivement possible ces plantes d'extérieur en intérieur. Comme ça, en fait, ça a vraiment permis de limiter un maximum ces ravageurs, s'ils étaient à l'extérieur, qu'on les ramène à l'intérieur. Et puis, Après, vous pouvez aussi mettre vos plantes dans une pièce un peu plus fraîche, si vous en avez la possibilité, ça peut aussi les limiter. Et puis, c'est un ravageur qui aime le sec et le chaud. Donc, bien sûr, dans nos appartements, il prolifère. Vous pouvez essayer de mettre vos plantes dans du gravier dans la soucoupe et puis vous posez vos plantes dessus. Comme ça, ça fait un peu une barrière humide autour du pot. Et puis, l'huile essentielle de romarin, on m'avait dit que ça fonctionnait, mais ça, ce sera à essayer de pulvériser vos plantes. Et puis, bien sûr, vous pouvez vaporiser à l'eau vos plantes parce que c'est un ravageur qui n'aime pas, comme les cochenilles, l'eau. Donc ça peut être des moyens pour limiter.
Et rapidement, on a encore juste une question qui nous vient de Didier de Bienne qui nous demande « Voilà, j'aimerais encore planter des pommes de terre cette année, ça c'est possible ?»
Ah non, c'est beaucoup trop tard. Elles vont rester en terre, elles ne vont pas geler, les pommes de terre résistent bien au gel, mais c'est autant attendre le printemps et puis les planter à partir du mois d'avril. Ça dépend, ah oui, vous êtes à Bienne, donc vous pouvez faire ça à partir du mois d'avril.
Les jardinières.
Ce matin, les dahlias étaient à l'honneur dans les jardinières. Quelle variété choisir, comment les conserver, les planter et les entretenir? Vous trouverez tous les conseils de Timothée Grisel en cours de matinée, en podcast sur notre site.
Timothée, avant de vous laisser filer, une dernière chose, vous auriez encore quelques conseils concernant ces dahlias?
Oui, alors un gros conseil, lors de l'achat, si vous voulez commencer à les dahlias l'année prochaine, regardez bien à l'arrière du sachet que les tubercules soient bien attachés à la tige, parce que si ce n'est plus le cas, ils sont souvent malmenés à l'arrachage, vous aurez zéro succès. Et puis, on choisit toujours la fleur, la beauté de la fleur, mais pensez bien à regarder le développement de vos dahlias, parce que c'est pas la même chose si on a un dahlia de 2 mètres de haut ou si on en a un de 30 cm. Donc regardez bien à l'arrière le développement du dahlia.
Et Timothée, avant de vous laisser filer, une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin au début du mois de novembre?
Alors, bien désherber, c'est hyper important parce que les mauvaises herbes n'attendent pas les beaux jours pour repousser. Donc, désherbez bien vos jardins maintenant. Vous pouvez ramasser les feuilles mortes sur votre pelouse, rabattre les vivaces flétries. Et puis, bien sûr, c'est toujours la période pour planter les bulbes de printemps. Et puis, n'oubliez pas d'amener vos machines à réviser chez votre garagiste avant que le printemps arrive bien vite.
Merci Timothée, vous êtes paysagiste aux Verrières, propriétaire de Timothée Grisel Paysage. On vous souhaite un très bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Merci, à bientôt, bon week-end à tous.
La semaine prochaine, pour répondre à vos questions et vous donner de bons conseils, nous serons en compagnie de Claudine Miseret et Stéphane Caravella, permaculteurs à Charmoille. Vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions en remplissant le formulaire sur notre site. Bon week-end Léo.
Bon week-end Noélie.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.